Salut tout le monde, c'est Melvin et bienvenue sur On Papers. Ici on parle de sport, de handball, de féminin, de psychologie de la performance. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur la signature de l'accord collectif signé pour le handball féminin.
En fait, sur un seul texte, sur 40 pages, on a un peu toutes les informations qui se trouvent dans le règlement, dans la loi, dans et voilà. C'est toutes ces applications, elles sont propres aux joueuses de première division de handball.
Vous le verrez dans l'épisode, en France, il existe un texte qui régit les conditions de travail de tous les sportifs et des sportives. Ce texte, il vaut que pour les sports qui n'ont pas un texte spécifique. Par exemple, le handball masculin a son propre texte, qui définit les conditions de travail des handballeurs, donc ils ne dépendent pas de ce texte-là. C'est pourquoi le SMIC d'un handballeur qui évolue en première division ou en deuxième division est plus important que le SMIC appliqué en France. Pour toutes les autres disciplines, notamment féminines, puisque le handball est le premier sport féminin à signer un accord collectif pour sa première division, les règles qui régissent en fait les conditions de travail sont exactement les mêmes. Mais on voit bien que l'existence d'un texte unique pose problème, parce que les conditions de travail d'une handballeuse ne sont pas celles d'une athlète qui fait de l'escrime, par exemple. Ou encore, une footballeuse qui évolue en première division n'a pas les mêmes conditions de travail qu'une footballeuse qui évolue en troisième division de football. Pareil sur la question de la maternité. Une fois qu'une handballeuse est enceinte, vu qu'on a un sport qui est quand même un peu un sport de combat, prendre des coups toute la journée dans le ventre, c'est pas forcément la meilleure idée. Une handballeuse ou une judokate ne font pas du golf. Et justement, cet accord s'imprègne noir sur blanc des spécificités féminines de la handballeuse professionnelle.
Finalement, c'est une grossesse, c'est un aléa qu'on n'arrive pas à prévoir une date de début et une date de fin. Donc là, en fait, je pense que ça va lever un peu un tabou.
Alors, je vous laisse découvrir toutes ces avancées avec mon invitée, Anne-Laure Michel, qui travaille au syndicat des joueurs et joueuses professionnelles de handball. On a essayé de faire une petite sélection des grands points qui ont été négociés. Mais bien sûr, elle restera à votre disposition si vous avez envie d'en savoir un peu plus, si ça peut vous inspirer pour votre discipline et que vous ne faites pas du handball. Donc voilà. Nous, dans l'épisode, on parle au futur, parce qu'on s'est enregistré avant la signature de l'accord qui était le 15 mars. Mais bon, vous comprendrez quoi. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter rapidement, même si c'est toi qui avais inauguré la création du podcast?
Très bien. Alors, donc moi, c'est Anne-Laure Michel. Donc, effectivement, j'ai eu l'honneur de faire le premier épisode qui me paraît être il y a 2 mois, mais en fait, c'était il y a même peut-être 2 ans. Donc, je travaille pour l'AJPH, qui est l'association des joueuses professionnelles de handball. Et je suis responsable communication et développement. Et j'accompagne les joueuses et les joueurs professionnels dans la reconversion ou dans tout projet ou problème juridique qu'ils peuvent avoir.
Ok, super. Bon, alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'un problème. Au contraire, on est là pour parler d'une grande solution et d'un grand événement pour le handball féminin. Est-ce que tu peux déjà nous parler de cet événement? Qu'est-ce que c'est, avant qu'on rentre dans les détails en fait, de ce qui se passe et de ce jour un peu historique qui est le 15 mars 2021 pour le handball féminin?
Effectivement. Alors, on est sur le point de signer la convention collective du handball professionnel féminin. Qu'est-ce que c'est? C'est le premier accord collectif disciplinaire d'un sport féminin français. Donc c'est un événement qui va se dérouler demain, donc le lundi, qui va se dérouler lundi 15 mars à l'hôtel de ville de Paris, qui sera aussi en direct, en visio, parce qu'on a été soumis forcément aux restrictions sanitaires dues au Covid, donc ça n'a pas été simple. Mais ce qui est important, c'est en fait, ça marque l'aboutissement des négociations entre les partenaires professionnels, que sont les représentants des employeurs, donc l'UCPHF, qui est l'Union des clubs professionnels de handball féminin, donc représentants des clubs, et les représentants des salariés, que sont l'AJPH, donc représentants des joueuses, et cette master, qui est le groupement des entraîneurs et professionnels de la formation de handball. Donc les 3 partenaires professionnels ont négocié pendant plusieurs mois, voire même années maintenant, un accord collectif qui dépasse donc le cadre de la Convention collective nationale du sport, de laquelle dépendaient avant les contrats de travail des joueurs et joueuses, enfin des joueuses et des entraîneurs de première division notamment. Donc on est très fiers d'avoir abouti et que ces négociations finalement aient donné naissance à ce texte. Et donc on le signe dès demain.
Super. Bon, moi, Anne-Laure, j'ai besoin que tu vulgarises un petit peu tout ça pour moi, Parce que c'est vrai que quand tu me parles d'accord collectif, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Donc, est-ce que tu peux expliciter ce que c'est et peut-être nous expliquer du coup la différence en fait entre un accord collectif et le texte précédent qui en fait est le même pour tous les sports en France?
Alors effectivement, alors déjà en premier lieu, merci pour ton invitation parce que cet objectif de vulgarisation, c'est clairement un objectif qu'on s'est fixé comme prioritaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces textes, donc on va partir en fait dans chaque branche, donc que ça soit le sport, que ça soit la culture, il y a des conventions collectives nationales. Avant, le contrat des joueuses professionnelle dépendait donc de ce qu'on appelle la CCNS, qui était donc la Convention collective nationale du sport, qui avait en son sein un chapitre 12 pour les joueurs et joueuses professionnelles. Ce texte-là, il était négocié par des partenaires sociaux nationaux, donc ça veut dire que c'était vraiment au niveau du sport, pas que du handball. Dis-moi.
Et tu disais, t'as dit que c'était aussi pour les joueurs et les joueuses. Ça voulait dire que pour les joueurs et les joueuses, c'était le même texte.
Alors, pour les joueurs et les joueuses qui n'avaient pas d'accord sectoriel par discipline. Donc, ça veut dire que, par exemple, nous, le handball masculin, on a un accord sectoriel disciplinaire. Donc, ça veut dire que les joueurs, eux, dépendent de notre accord. Par contre, dans des disciplines où il n'y a pas d'accord disciplinaire, ils dépendent de la CCNS. En fait, la CCNS, elle couvre environ 125 000 emplois dans le sport en France. Donc aussi bien des joueurs, des athlètes professionnels, par exemple, en N1 de handball, en N1 masculin, on a quelques contrats professionnels. Ces contrats professionnels dépendent de la CCNS, parce que l'accord collectif du handball professionnel masculin inclut uniquement la première division et la deuxième division. Donc c'est un peu technique, mais effectivement, l'avantage d'avoir un accord disciplinaire, donc d'avoir un accord par discipline, c'est déjà une plus grosse flexibilité parce que les personnes, les partenaires qui le négocient sont les partenaires du sport. Pour négocier cette convention collective du handball féminin, autour de la table sont uniquement présents les partenaires professionnels du handball féminin. Donc ce texte-là, la CCNS, a été signée en 2005 et l'objectif des partenaires sociaux, c'était de trouver un peu une base commune à tous les sports. Mais on sait très bien que, et nous, c'est ce qui nous dérangeait un peu, c'est qu'on se rendait compte que finalement, une joueuse professionnelle de, on va dire, de N1, donc troisième division de handball, bah, ce contrat pro dépendait du même texte que les joueuses de première division. Et nous, ça nous posait un problème, parce qu'on sait que clairement, bah, une joueuse de première division qui a un rythme LBE, Ligue des Champions, bah finalement, son salaire minimum, c'était le même que la joueuse de N1, ses congés payés, c'était le même que la joueuse de N1, et alors sans faire offense aux joueuses professionnelles de troisième division ou de deuxième division, mais on estimait qu'on n'était pas sur le même rythme, et donc en fait que nous, les joueuses professionnelles de première division, finalement, avaient des spécificités en termes de calendrier, de rythme, de repos, de congés payés, de prévoyance, qui devaient être traité dans un texte spécifique. Par exemple, un exemple très concret, la CCNS avant prévoyait 6 semaines de congés payés par an pour les joueurs, joueuses professionnelles. Donc imagine-toi, une joueuse de N1 avait 6 semaines de congés payés et une joueuse de LBE avait 6 semaines de congés payés. Et donc, nous, on estimait, alors effectivement, nous, notre objectif, c'était de négocier la parité avec les joueurs masculin, donc d'obtenir 7 semaines de congés payés, ce qu'on a obtenu, parce qu'on estime que sur une saison sportive où tu es peut-être amené à jouer 2 fois par semaine, où tu as voilà, un rythme quand même qui est différent, avec où l'effort demandé est différent, on a estimé que 7 semaines de congés payés étaient un peu plus adaptées au rythme d'une joueuse du plus haut échelon national.
Ok, super, ça marche. Alors, pour revenir sur les négociations, donc tu nous as dit un petit peu qui était autour de la table. Quels étaient les sujets que vous avez traités, du coup, en priorité? Là, tu as évoqué donc la semaine de congé payé par rapport à ce qui existait chez les garçons, parce qu'on doit le rappeler aussi, mais l'accord collectif masculin existe
Tout à
quand
fait.
pour les filles, il vient d'arriver. D'ailleurs, chez les garçons, je sais plus, il remonte à combien de temps?
Alors, chez les garçons, il a été signé en 2008. Et il faut savoir qu'en 2018, ont été intégrés la deuxième division masculine. Donc, en 2008, on l'a signé pour la première division masculine. Et il y a trois saisons, on a intégré la deuxième division masculine.
Ok, ça marche. Donc, bon, on voit aussi à quel point on est en retard, mais c'est pas grave, ça avance et c'est cool. Et donc, pour ce qui est des sujets, donc voilà, tu as évoqué les congés payés. Est-ce que tu peux revenir sur les différents points sur lesquels vous avez décidé de, d'échanger, d'essayer de trouver un accord, justement ? Et voilà, peut-être les plus importants, ceux qui sont peut-être les plus explicites pour les joueuses.
Tout à fait. Alors effectivement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais déjà, il faut savoir que c'est un texte. Alors symboliquement, si une joueuse me demandait de lui envoyer la CCNS, ce texte faisait 300 pages, donc c'était très peu accessible. Actuellement, notre convention collective du handball professionnel féminin fait 40 pages, donc déjà, ça sera beaucoup plus lisible pour tout le monde, mais je vais essayer de le résumer et de revenir avec toi sur les points et les items qu'on a pu négocier. On a essayé d'être le plus exhaustif possible, club, joueuse et entraîneur. On se réunit dans le cadre d'une commission paritaire. Donc c'est cette commission qui est chargée de modifier la convention et on a fixé des délais pour se réunir. Et donc par exemple, tous les 2 ans, on doit se réunir pour parler justement des minima de salaire ou toutes ces choses-là. Donc ça déjà c'est un bon signe parce que ça veut dire que voilà, elle va être sans cesse en fait, il y aura une périodicité et elle va être sans cesse renégociée et rediscutée. Donc ça c'est défini très clairement dans l'accord.
Ok, ça c'est super, ça veut dire qu'en fait c'est pas figé et si par exemple, je sais pas moi, après la crise du Covid, il y avait une explosion du nombre de licenciés et de supporters pour venir voir les matchs et qu'on avait des droits télévisés et qu'on passait sur toutes les chaînes publiques. Alors peut-être on pourrait imaginer qu'il y ait des redistributions de salaires. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est arrêté. Une fois que c'est signé, il y a des vraies discussions qui restent en cours et ça c'est top ça.
Tout à fait. Et c'est vraiment, c'est clairement défini, tu vois, sur les... sur les salaires, c'est une fois tous les 2 ans qu'il faut qu'on se réunisse pour renégocier, pour les congés payés, pour les conditions de travail, toutes ces choses-là, c'est une fois tous les 4 ans. Donc c'est vraiment rien n'est figé dans le marbre. Et d'ailleurs, on peut si une des 3 parties le décide, on peut réviser à tout moment cette convention. Donc voilà, ça c'est aussi une des flexibilités parce que avant la CCNS, si nous, à JPH, on voulait la réviser, il fallait qu'on passe par la FNAS, il fallait qu'ils demandent... Enfin, c'était clairement... c'était pas vraiment de notre ressort. Donc là, on a un texte qu'on peut réviser un peu quand on veut. Et du moins, si les partenaires sont pas très actifs, on a au moins des dates minimales, une périodicité qui va nous permettre de renégocier et de rediscuter des sujets et de s'adapter, comme tu dis, un peu à la réalité. Ensuite, on rentre sur des items un peu plus précis, comme le contrat de travail. Donc là, par exemple, bon alors ça, il n'y a pas de grosse différence. On reprend un peu voilà, que le contrat de travail, il doit être au minimum d'une saison complète, donc de 12 mois. Il ne peut pas être supérieur à 5 années. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans la loi, mais on le rappelle dans ce texte-là. Ensuite, sur le contrat de travail, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, qui n'était pas le cas avant dans la CCNS, c'est que par exemple, tu sais que les contrats de travail des joueuses, notamment, sont envoyés chaque saison à la fédération pour homologation. Et pour homologation, il faut remplir différentes conditions, il y a notamment des certificats médicaux demandés par la commission médicale, toutes ces choses-là. Et avant, disons que si le contrat n'était pas homologué par la fédération, le contrat de travail pouvait être nul. Sauf que nous, on a dit et on a négocié dans notre convention collective que finalement, un contrat de travail, dès lors qu'il est signé, même s'il n'est pas homologué par l'instance, ça veut dire qu'en soi, la joueuse ne va pas pouvoir jouer, le contrat n'est pas nul. Ça veut dire que le contrat sera valide. Et donc ça vient protéger les salariés. Ça veut dire que l'homologation du contrat de travail, finalement, n'a aucune incidence sur la validité de ce qui a été signé.
Mais est-ce que, en fait, le fait d'être homologué, c'était pas vérifier que toutes les conditions justement qui protégeaient la joueuse face peut-être à la volonté de lui proposer un contrat qui serait pernicieux ou qui ne respecterait pas justement, je sais pas, le code du travail ou j'en sais rien. Est-ce que c'était pas une protection pour la joueuse, le fait d'être
Alors,
homologué, le contrat?
effectivement, c'est une protection, mais des fois, le contrat n'est pas homologué parce qu'il manque une pièce. Et donc, le club pouvait dire, ah ben le contrat n'est pas homologué, donc je romps ton contrat de travail. Et donc ça,
D'accord.
c'est clairement pour nous, voilà, où tu vois, par exemple, si le club a posteriori se rendait compte que sur le plan médical, il y avait un petit problème, il pouvait dire, ah ben non, ça n'a pas été homologué, donc ben, au revoir, finalement, on ne va pas travailler avec toi. Tu vois, parce qu'il y a plusieurs raisons de refuser une homologation du contrat de travail.
D'accord.
Donc,
OK.
nous, ce qu'on a dit, c'est que finalement, nous, on ne veut pas rentrer dans ces problèmes-là, c'est que dès le contrat de travail est signé, pour le coup, c'est deux parties qui s'engagent, le club et la joueuse et l'entraîneur. Et donc, en fait, la décision de la fédération n'a pas d'incidence sur la validité du contrat de travail. Donc, si jamais le club veut se séparer de la joueuse avant même que la saison commence, il devra répondre de ses obligations, puisque le contrat vaudra comme, enfin, sera valide. On a ensuite un article qui parle du temps de travail. Vu que c'est nous qui l'avons négocié, ça nous permet vraiment d'entrer dans le détail et de s'adapter en fait à la réalité des joueuses de handball. Donc ça, pareil, c'est un article très détaillé, que ce soit pour les joueuses et pour les entraîneurs également.
Et concrètement, le définir le temps de travail, quelle incidence après ça a sur nous? Tu vois, moi j'ai une petite idée, mais est-ce que tu peux expliciter du coup l'incidence que ça va avoir?
Alors, le temps de travail, ce qui est important pour nous, joueuses, ça va être aussi quand on calcule le repos entre justement les périodes travaillées. Tu vois, de calculer finalement, est-ce que tu as du temps de repos suffisant entre justement mettre tes déplacements. Donc, pour ça, c'est important de savoir quand est-ce que je travaille, quand est-ce que je suis en situation de travail ou quand est-ce que c'est plus du travail. Donc, c'est pour ça, c'est important ces notions de bien différencier là je travaille pas parce qu'on fait un travail particulier. Par exemple, quand on est en déplacement, est-ce que les repas, les collations, bah, c'est du temps de travail? Alors, quand c'est un déplacement pour un match, les repas, les collations, c'est du temps de travail. Parce qu'on est là, sur demande de l'employeur, on est là pour jouer. Les séances de musculation, tout ça, c'est vraiment très détaillé. Et justement, ça peut être intéressant de voir les incidences un peu de ce qui est du travail et pas du travail. Ensuite, on a, si je continue, donc le repos hebdomadaire, toutes ces notions justement de repos, que ça soit hebdomadaire ou ensuite de congé, parce que ça c'est aussi important de faire la différence entre repos hebdomadaire et puis les congés payés. Et les congés, ça c'est clairement un gros changement, parce qu'avant en tant que joueuse professionnelle, on accumulait 3 jours de congés par mois, et maintenant on accumule 3,5 jours, donc on gagne une semaine de congés payés sur la saison, sur une année de travail. Et donc ça, clairement, pour nous, c'était important parce que c'est la parité avec le secteur masculin. Et
Super,
ensuite,
ça c'est vraiment top ça.
on parle aussi de la modulation des périodes de congés. Donc, par exemple, sur l'intersaison, pour les joueuses, on demande 4 semaines consécutives de congés, ensuite une semaine en fin d'année civile, et ensuite 2 semaines à placer librement en accord avec l'employeur. Donc ça permet d'avoir finalement une cohérence sur les congés, tu vois, et pas d'avoir bah, l'intersaison qu'une semaine. Et puis, donc ça, c'est quelque chose qu'on est aussi venu préciser pour les joueuses.
Ok, super.
Ensuite, on parle des rémunérations, donc de la rémunération minimale. Et alors là, il y a quelque chose qui est important à savoir aussi alors, notamment pour les joueuses, mais aussi pour les entraîneurs, c'est que, comme tu l'as dit, la flexibilité en fait de ce texte, c'est qu'on s'adapte à la période dans laquelle on est. Et il faut savoir que ce texte, il a été négocié et signé dans une saison particulière, parce qu'on est quand même en pleine crise un peu du Covid, avec des pertes de recettes billetterie, toutes ces choses-là pour les clubs. Et donc, ce qui a été décidé, ce texte-là, il va rentrer en vigueur au 1er juillet 2021. Par contre, l'article
Ok.
sur les rémunérations minimales, il a été décidé que pour l'instant, cet article-là, il est gelé. Et donc que pour l'instant, pour la première saison d'application, les rémunérations minimales qui s'appliqueront seront les mêmes qui s'appliquaient auparavant. Pour justement laisser au club, en fait, le temps de, voilà, de digérer un peu la crise. Et donc, il est prévu, à l'issue de la saison prochaine, de se réunir et de discuter justement de rémunération minimale qui serait un peu plus élevée. Et c'est le but, en fait, de cet accord, quand même, d'avoir des rémunérations minimales un peu plus élevées que celles qu'on avait dans la CCNS. Mais là, donc, c'est un peu la spécificité de cet accord en raison de la crise sanitaire. Et c'est clairement indiqué, c'est en raison de la crise sanitaire. Ouais. Cet article-là est gelé. Mais étant donné que ça sera très flexible, ça, dès qu'on le décide, on va se réunir. Et en fait, peut-être que dans 6 mois, si les conditions vont mieux et que tout va mieux, on va peut-être pouvoir dégeler cet article et prévoir une rémunération minimale qui serait un peu plus élevée. Ensuite, on a un article, alors ça c'est quelque chose qui est très symbolique aussi pour les joueuses, c'est tout ce qui est prévoyance. La prévoyance et complémentaire santé, qu'est-ce que c'est ? En fait, la prévoyance, c'est tous les aléas de la vie. Donc les aléas de la vie, chez nous, ça peut être les blessures, ça peut être la maternité, alors, un aléa positif pour le coup. Bon, on peut aller, on ne souhaite pas, mais ça comprend aussi tout ce qui est lié au décès, toutes ces choses-là. Et donc, ça clairement, c'était pour nous un gros point de la CCNS qui n'était pas adapté aux joueuses professionnelles. Puisque pour la petite histoire, sur la CCNS, n'était prévu uniquement que 3 mois de maintien de salaire dès lors que la joueuse était en arrêt de travail, que ça soit pour blessure ou que ça soit pour maternité. On sait très bien que quand une joueuse tombe enceinte, elle peut pas aller comme Madame Tout le Monde au bout de son 8e mois de grossesse. Donc généralement dans le monde, on s'arrête 1er mois, 2e mois de grossesse. Et donc là, la joueuse avait 3 mois de maintien de salaire. Le club était obligé de maintenir le salaire. Donc, en fait, quand on est en arrêt de travail, on reçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Et l'employeur était obligé de maintenir le salaire pendant 3 mois. Mais ensuite, entre les 3 mois et le début du congé maternité, qui commence, si je ne dis pas de bêtises, 6 semaines avant l'accouchement, il y avait un peu un vide. Et là, c'était au bon vouloir de l'employeur. Si le club... Okay. voulait maintenir le salaire, il le maintenait, mais il y a des clubs dans lesquels les joueuses avaient la surprise, certains mois, de voir leur salaire diminuer parce qu'elles ne touchaient que les indemnités journalières. Et il faut savoir que les indemnités journalières de la Sécurité sociale, c'est dégressif. Donc plus on avançait, plus on se retrouvait, et malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et nous, on a plusieurs joueuses qui s'en rendaient compte sur le tas, qui recevaient leur bulletin de paie et qui voyaient leur salaire mois après mois diminuer. Donc ça, clairement, c'est quelque chose aussi. Ce texte-là, il vient finalement rendre la situation égalitaire entre tous les clubs. Maintenant, une joueuse, elle n'a plus à se demander si je signe dans ce club, est-ce qu'on va me maintenir le salaire si je tombe enceinte ? Peut-être que si je signe dans ce club, ils ne vont pas me le maintenir. Non, maintenant, cette question ne se pose plus. Maintenant, ce qu'on a négocié, c'est 12 mois de maintien de salaire. Quel que soit le club où on signe, on aura 12 mois de maintien de salaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est juste...
C'est ouf. Voilà. C'est vraiment incroyable. Ouais.
Donc ça, c'est l'obligation, en fait, pour le club de prendre un contrat de prévoyance. Donc ce contrat de prévoyance, c'est un contrat d'assurance, en fait, justement, qui vient... finalement prévoir un peu les aléas et toutes ces incertitudes. Donc ça permet aussi...
Oui, et puis franchement, moi je me souviens quand j'en discutais avec Siraba Dembélé, Laura Gloser et Ailey Luciano dans l'épisode sur la maternité, ce que disait Siraba, c'était très intéressant, c'est ce truc où un peu on prend pas en compte, comme tu disais, la pénibilité du travail, en fait les spécificités du travail de joueuse de handball, quoi. Enfin, à un moment donné, les joueuses, quand des fois elles sont gardiennes et qu'elles prennent une balle dans le ventre, s'il y a un bébé dedans, enfin, voilà quoi, on sait pas ce qui peut arriver, donc effectivement... C'était presque absurde, en fait,
tout à fait,
ce qui était proposé avant.
Tout à fait. Et c'était vraiment, ça dépendait vraiment le bon vouloir des clubs. Alors, on a eu des bonnes pratiques, et tu l'as cité, nous, Siraba, oui. Pour le coup, le club de Toulon a toujours très bien joué le jeu. Il avait un contrat de prévoyance avant même que ce soit obligatoire. Donc, disons, dans ces clubs, on lui a jamais mis la pression pour revenir plus vite. Mais il y a des clubs où, finalement, on mettait la pression... à la joueuse pour qu'elle revienne plus vite, pour justement pas avoir à payer plus, pas avoir... Donc là, c'est quelque chose qui sera... Et je pense qu'en fait, ça peut aussi changer les mentalités parce que le fait de le mettre clairement dans l'accord et d'obliger en fait tous les clubs à prendre un contrat de prévoyance pour justement se prémunir de ces situations un peu aléas d'un club, de la vie, qu'on prévoit pas parce que finalement, c'est une grossesse, c'est un aléa qu'on n'arrive pas à prévoir une date de début et une date de fin. Donc là, en fait, je pense que ça va lever un peu un tabou. Ça va lever un tabou et ça va permettre de dire, voilà, si ça arrive, ce cas est prévu. Et aussi, un des objectifs des partenaires professionnels, c'est de se dire, on a aussi envie d'assouplir les règles sur, par exemple, les jokers grossesse. Alors ça ne sera pas au niveau conventionnel, ça sera au niveau réglementaire, au niveau de la LFH. On a aussi envie de faire avancer les choses pour permettre au club de recruter plus facilement une joueuse pour remplacer une joueuse qui serait absente pour cause de maternité. Donc en fait, c'est un peu un cercle vertueux. On veut nous protéger les joueuses, mais on veut aussi permettre au club finalement de mieux gérer ces situations pour pas que ça devienne justement une situation de crispation où les joueuses vont pas oser parler de leur projet maternité. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de fluidifier pour plus que ça soit un tabou. Ça doit plus être un tabou. Ça fait partie de la vie d'une femme et de la vie d'une joueuse. Et on sait qu'un club féminin, il peut être confronté à ces situations-là.
Super, ça c'est vraiment un très très gros point. Même si on a envie de se dire que ça devrait être normal, bon...
Mais le problème, c'est que ça ne l'était pas.
C'est cool. C'est vraiment cool cette avancée-là, quand même.
Et, ouais. Et en fait, le pire, c'est que les joueuses n'étaient pas vraiment informées avant. Et finalement, il y avait vraiment des joueuses qui, certains mois, se retrouvaient avec 50% de leur salaire d'avant parce que les IJ, donc les indemnités journalières, finalement, étaient dégressives. Et ça peut vraiment être problématique quand on ne l'a pas prévu, alors qu'on sait que le contexte, quand on tombe enceinte... financièrement, ça peut être aussi compliqué. Et donc là, c'est clairement quelque chose où tout le monde pensait que c'était le cas. Et en fait, non, il n'y avait que 3 mois de maintien de salaire.
Et du coup, ça vaut aussi pour les blessures, ça ?
Ça vaut aussi pour blessures. En fait, prévoyance, ça inclut blessures, okay. Ça inclut maternité. Donc voilà, ça vaut pour aussi blessures longue durée.
Ok, tout. Super.
Voilà. Ce qu'il faut savoir, Alors je ne l'ai pas dit, mais parce que pour le coup, dans le handball, ça peut être moins d'importance, c'est qu'il y a un maintien de salaire, donc de la rémunération nette, dans la limite en fait de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale, de 7000 euros. Mais étant donné qu'il y a
que
90...
On gagne pas 7000 euros.
Comment ? Voilà, c'est ça. Non mais clairement, quand on avait fait l'étude au début des négociations, on s'était rendu compte que peut-être qu'il y avait 5 joueuses qui gagnaient plus de 7000 euros. Donc voilà. Clairement, on va dire que le cas général, c'est que toutes les joueuses auront un maintien de salaire intégral. Mais c'est quand même une petite nuance à préciser. Voilà, c'est à peu près tout. En fait, sur un seul texte, sur 40 pages, on a un peu toutes les informations qui se trouvent dans le règlement, dans la loi, dans... Et voilà, c'est toutes ces applications, elles sont propres aux joueuses de première division de handball.
Ok, super. Super, bah merci pour ce beau développement, Anne-Laure, sur tout ce qui s'est négocié. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des conditions de négociation, comment ça s'est passé entre les différents acteurs Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu des sujets qui ont été plus difficiles que d'autres à faire valider ou finalement ça s'est fait vraiment dans une bonne ambiance parce que ça semblait logique.
Alors on va dire que finalement ça a été des négociations relativement courtes. Pour les clubs, avoir un accord comme ça, ça suppose des changements, ça suppose aussi forcément des coûts supplémentaires quand on a une semaine de congé payé en plus pour tous ces salariés. Bon, forcément, c'est des coûts supplémentaires. Donc, j'ai plutôt l'impression que les négociations se sont faites en bonne intelligence. Et je pense que d'ailleurs, le dialogue social au sein du handball féminin, on peut le dire, c'est vraiment une des bonnes pratiques quand on entend, quand on voit ce qui se passe dans les autres disciplines. Voilà, il y a eu forcément des négociations sur des fois, à l'époque, quand on a parlé des minima de salaire, même si cet article est gelé, on en a quand même discuté. Donc voilà, des fois, ça se joue sur des dizaines d'euros, ça se joue. Mais ça s'est toujours fait en bonne intelligence et il y a toujours eu des propositions, des contre-propositions. On a toujours expliqué, je pense que ça a été aussi très important d'expliquer. Et on a pu débattre librement de sujets et c'était hyper intéressant parce que finalement on se rendait compte que la connaissance de certains items n'était pas égale entre tous les présidents de club. Et j'ai toujours l'impression que ça s'est fait vraiment en bonne intelligence et que tous les sujets ont été discutés. Il y a eu des négociations, forcément, il y a eu des négociations. Mais c'est plutôt une très belle pratique voilà, qu'on a dans le handball féminin. Je pense qu'on peut en être fier parce que tous les sports ne peuvent pas dire la même chose. Donc il n'y a pas vraiment eu de blocage. Je pense qu'on est arrivé à négocier tous les points qu'on voulait négocier. Et clairement, ça sera progressif. On va se revoir régulièrement. Et donc justement, les rémunérations minimales, c'est un prochain item quand la situation sera un peu plus... qu'il y aura un peu moins d'incertitude. On se remettra autour de la table pour discuter ça et pour réactiver justement cette discussion. Mais donc non, ça s'est fait vraiment en bonne intelligence et on peut s'en féliciter.
Super, super. Là, tu reparlais un petit peu de cet article qui est gelé en ce qui concerne les minima sociaux. Mais est-ce que peut-être toi, tu as des rêves encore et des sujets sur lesquels tu voudrais qu'on continue d'avancer? Quelles sont toi les thématiques qui te tiennent à cœur et qui peut-être pourraient être l'objet de prochaines mesures, même si je te vois très très enjouée déjà de cet accord-là, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a déjà un grand bond en avant qui se fait.
Effectivement, alors un grand bond. Alors symboliquement, moi je pense toujours à la maternité parce que on a eu accompagné des joueuses qui clairement ont peut-être eu moins de chances de tomber dans des clubs et c'était vraiment vraiment pas la majorité. Je pense qu'on peut aussi féliciter les clubs qui ont vraiment joué le jeu sur ces dernières années, mais au moins ce texte permet vraiment de garantir des conditions égales, quel que soit le club dans lequel on signe, quel que soit notre statut ou toutes ces choses-là. Donc j'ai envie de dire que là déjà on est très content d'avoir obtenu ça. Peut-être qu'un des prochains challenges, et d'ailleurs on l'a déjà en tête, c'est l'agrandissement du champ d'application, donc ça veut dire l'élargissement à la deuxième division professionnelle, qui est aussi pour nous une division professionnelle avec des contrats professionnels. Donc ça, clairement, on espère ne pas attendre 10 ans comme on a attendu pour les garçons d'intégrer la deuxième division dans l'accord collectif masculin. Et ça, c'est clairement quelque chose qui nous tient à cœur parce que finalement, une joueuse enceinte, qu'elle ait un contrat professionnel en deuxième division ou en première division, elle a un peu les mêmes contraintes. Et donc ça, clairement, je pense que... Et on a déjà commencé les discussions, donc je pense que ça ira plus vite que chez les garçons. Donc ça, si je peux avoir un rêve, ça serait peut-être celui-ci, d'intégrer la deuxième division rapidement dans cet accord. Et puis, je pense que aussi, ces discussions-là, indirectement, vont aussi nous amener sur les discussions de l'autonomie de la LFH. Donc, des discussions qui sont toujours un peu en dents de scie et qui sont présentes. Mais là, en fait, on s'est rendu compte que les partenaires professionnels, que sont les clubs, les joueuses et les entraîneurs, arrivent à travailler ensemble, arrivent à produire de belles choses. Donc, pourquoi pas arriver à construire une ligue autonome pour justement parler médiatisation, pour justement convaincre, et ça aussi vis-à-vis des clubs, et c'est d'ailleurs Jean-Marie Siffre, le président de l'Union des clubs, qui le disait très justement, avoir un accord comme ça, collectif, être le premier sport à avoir un accord collectif, c'est aussi un bon signal envoyé aux partenaires des clubs, envoyé aux partenaires de la LFH, envoyé aux partenaires télévisuels, et on espère clairement que c'est aussi un effet un peu vertueux sur la professionnalisation, sur le développement de notre discipline. Et c'est pour ça qu'on aimerait aussi rêver d'avoir une ligue autonome, une ligue avec tous ces challenges de médiatisation et de développement, de faire aussi un bon supplémentaire au-delà de ces acquis sociaux finalement qu'on a gagnés grâce à ce texte. Donc voilà.
Ouais, clairement. Bon, en tout cas, moi, je tenais vraiment à te remercier pour ton travail et enfin, bien sûr, ainsi à toutes les personnes qui étaient sur la table et qui ont négocié pour ça. Parce que c'est vrai que, voilà, on peut rêver grand quand on voit qu'on passe de 3 mois de prise en charge pour une grossesse à 12. On peut rêver grand quand on passe de 6 semaines de congé payé à 7. Donc voilà, on peut rêver et on peut se dire qu'il y a des choses qui peuvent changer positivement dans le bon sens et ça fait toujours du bien de s'en réjouir.
Surtout dans cette période.
Je te remercie beaucoup. Ouais, vraiment.
Merci, puis j'en profite justement pour, t'en as parlé rapidement, mais pour, alors, mes collègues, que ce soit le directeur de la JPH, mais aussi le directeur de l'UCPHF, le directeur de cette master, finalement un peu les salariés qui ont œuvré dans l'ombre de cette négociation, mais aussi les élus qui ont été hyper présents et qui, voilà, hyper disponibles. Donc ça, je pense que c'est remarquable, et l'action des partenaires sociaux au sein du handball féminin professionnel, je pense qu'on peut en être fier, et ce travail finalement rapide et ces acquis sociaux, on les doit à toutes ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre toutes ces semaines et tous ces mois et toutes ces années.
J'espère que cet épisode vous a plu, que c'était assez clair et concis et que, bah comme moi en fait, vous êtes ravis de voir toutes les avancées qui peuvent exister aujourd'hui dans le monde du sport féminin. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup du retard qu'on a par rapport au secteur masculin. Je trouve que l'histoire du handball, en tout cas féminin, avance bien et que vraiment, c'est de bon augure en fait pour l'avenir. Donc vous pouvez me faire vos retours sur Instagram à handpapers ou par mail à handpaperspodcast@gmail.com. Et vous pouvez aussi prendre quelques petites secondes pour aller me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide beaucoup le podcast. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!